Culture, midi presque 57, un mardi 8 mai, deuxième et dernière partie de la Grande Table, et dans l'actualité des idées aujourd'hui, une autre histoire de l'altérité avec l'historien indien Sanjay Subramaniam, professeur au Collège de France et d'histoire économique à l'Université de Californie à Los Angeles. Il est à la fois spécialiste de l'histoire de l'Inde, pays qui monte, et aussi il est d'un des pionniers de l'histoire connectée. Aux origines de l'histoire globale, sa leçon inaugurale au Collège de France a été publiée en 2014 chez Fayard, suivie de leçons indiennes, itinéraire d'un historien, et de l'éléphant, le canon et le pinceau, histoire connectée des cours d'Europe et d'Asie chez Alma Éditeur. Toujours chez le même éditeur, il publie aujourd'hui l'Inde sous les yeux de l'Europe, où il raconte comment cette civilisation a été perçue par les Européens, qui s'y sont aventurés autour du XVIe siècle jusqu'à la fin de la période moderne. Ils ont apporté de leur expédition de nombreux témoignages qui attestent de la puissance de l'Inde dans les imaginaires, un pays qui a nourri leurs réflexions sur le langage, la religion ou encore le commerce. À nos côtés est aussi restée Christiane Taubira, l'invitée de la première partie de l'émission. Ensemble, on va tenter de recréer un dialogue. Bonjour à vous d'abord, Sanjay Subramaniam. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour.
Bonjour.
Et merci Christiane Taubira d'être restée à nos côtés, un peu à la manière d'Edouard Saïd, l'auteur de l'Orientalisme. Sanjay Subramaniam, vous avez choisi donc de nous présenter une autre histoire des relations franco-indiennes. Mais sans vous en inspirer complètement, vous souhaitiez pas, vous n'aspiriez pas au rétablissement d'un moi originel, écrivez-vous. C'est donc une autre histoire que vous écrivez sans parti pris. Est-ce que c'est quand même aussi, à travers cette Inde sous les yeux de l'Europe, votre nouvel essai, une critique de l'occidentalisme que vous avez souhaité faire ?
L'occidentalisme, comme l'orientalisme, c'est quelque chose qui existe, mais c'est aussi une formule un peu réductrice, c'est-à-dire, comme on sait, comme on a fait la critique de l'orientalisme d'Edouard Said, justement, il a peut-être trop homogénéisé en mettant ensemble en fait des points de vue qui étaient assez divers, et je pense que de la même façon la manière que l'Occident est perçu dans le non-Occident, disons, qui serait l'occidentalisme en quelque sorte, est aussi très très divers, c'est-à-dire le point de vue même des gens à l'intérieur de l'Inde portant sur l'Europe et les Européens n'était pas du tout homogène. Donc du coup oui, et l'occidentalisme, c'est quelque chose qui est intéressant. J'ai traité la question un peu dans le dernier chapitre de ce livre, mais gardons-nous un peu de cette tentation d'imaginer que les Indiens avaient un seul point de vue portant sur l'Occident.
Il y a quand même une opinion
commune.
Vous ne dressez
pas un axe du bien et un axe du mal dans ce livre. Ce n'est pas le but du jeu, vous le dites. Mais vous montrez quand même qu'à travers ces 3 siècles d'histoire, à travers ces expéditions, il y a bien une relation asymétrique qui s'est créée entre l'Inde et les Européens.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, si moi j'étais en train de faire le même exercice pour la Chine, les détails seront assez différents, mais l'asymétrie existe toujours dans tous ces contextes-là.
On va peut-être présenter le livre à nos auditeurs et à Christiane Taubira, qui est restée à vos côtés pour pouvoir ouvrir cette discussion. L'Inde sous les yeux de l'Europe. Pourquoi ce titre ? Pourquoi pas l'Inde dans les yeux des Européens ?
Ah, parce que c'est un clin d'œil où je joue un peu avec le titre d'un livre de Joseph Conrad qui s'appelle en anglais « Under Western Eyes ».
Mais un clin d'œil qui dit aussi.
Pardon ?
Un clin d'œil qui en dit long aussi.
Oui, mais je veux dire aussi que, justement, aussi c'est sous les yeux, c'est quelque chose qui parle justement de cette question d'asymétrie. C'est sous les yeux, après tout.
Il n'existe pas une lecture européenne de la situation en Inde, à vous lire, Sanjay Subramaniam, mais autant de lectures que de nations. C'est une vision plurielle que vous avez voulu présenter à travers cette histoire commune.
Oui, c'est-à-dire j'ai essayé de démontrer qu'il y avait, pas seulement au niveau des nations, mais par exemple, il y a aussi une question tout simplement disons, de classe. Par exemple, j'ai commencé en prenant 2 cas français, 2 français qui étaient en Inde au XVIIe siècle. Il y a l'un qui est très connu, un médecin qui s'appelle François Bernier, qui est quand même, disons, l'haut de gamme, un français très bien formé en tant que médecin à Montpellier, disciple de Pierre Gassendi, etc. Et puis il y a un autre français qui vient du sud, qui est artisan, joaillier, et lui, il a un autre point de vue, c'est-à-dire déjà, il y a une différence, disons, en termes d'origine sociale, et cette différence en termes d'origine sociale, et même, je dirais, en termes de classe, va créer des variations assez intéressantes, même à l'intérieur d'une nation qui est, dans ce cas, la nation française.
Il y a quand même une part d'exotisme, c'est ce que vous montrez dans le regard qu'on peut porter à cette époque-là sur l'Inde. Mais il y a aussi certains traits qui sont bien sentis. Mm-hmm. Vous arriveriez à camper un peu les deux regards, ce qui relève pour vous des préjugés ou de l'exotisme ou de l'attrait qu'on peut avoir pour cette terre inconnue au départ et ce qui peut être bien perçu, c'est là où les cultures vont réussir à se rencontrer.
Oui, parce que vous savez que c'était pas du tout mon intention dans ce livre d'insister sur le fait que les Occidentaux ont tout inventé et c'est que des fantasmes ou des choses comme ça. Non. En fait, ce que j'ai voulu démontrer, c'est que la façon dont les choses marchent, c'est comment en fait on va sélectionner des éléments qu'on n'invente pas, qui existent bel et bien dans la réalité, à partir des textes, à partir de l'ethnographie, et puis comment on va construire quelque chose à partir de ces éléments qui ne sont pas du tout des éléments faux. Mais c'est en fait la façon de décomposer, de recomposer, c'est là où il y a l'aspect intéressant, plutôt que d'imaginer qu'il n'y a que des fantasmes, que des inventions, comme par exemple un certain nombre de gens dont les études postcoloniales ont voulu faire depuis 25-30 ans. C'est-à-dire d'imaginer que tout cela, c'est que de la projection, que de l'imaginaire, sans aucune base dans la réalité.
Christiane Taubira, une histoire à sens unique, ça ne marche pas.
Non, ça ne peut pas marcher pour la simple raison que le monde a toujours été complexe et composite et que, effectivement, les projections, ce qui est remis en cause dans ces approches, y compris avec toutes ces imperfections, l'approche d'Edouard Saïd dans l'orientalisme, ce qui est remis en cause, c'est une narration du monde. Une narration du monde qui a été outrageusement simplifiée. Et ces regards décentrés, comme dit Sonny Labutanti, j'exige un autre centre du monde, d'autres centres du monde. Donc ces regards décentrés, ils partent de territoires qui ont leur complexité, qui ont leurs contradictions, qui ont leurs insuffisances. Et c'est une restitution de la richesse et de la complexité du monde. Je crois que c'est ça en termes méthodologiques, mm-hmm. C'est ça la démarche. C'est qu'il y a une narration qui nous a un petit peu comme une chape écrasée pendant deux siècles. C'est une narration qui a été construite principalement au 18e, au 19e siècle, principalement une narration qui a fait de l'expérience européenne l'expérience universelle. Et aujourd'hui, d'autres voix, donc il y a toute une polyphonie aujourd'hui qui nous rappelle que non, il y a d'autres centres qui sont de vrais lieux avec leur complexité, avec leurs irrationalités, avec leurs contradictions, avec leurs affrontements internes, qui sont des mondes en soi. Donc moi, je crois que c'est ça, c'est-à-dire que Monsieur Subramanian nous met à disposition un regard qui est recentré. Voilà, il part d'un lieu et ça nous habitue au fait qu'il y a de multiples lieux dans le monde et que le monde n'est pas. Alors ça, à la radio, ça ne dit rien.
N'est voilà, pas tombé d'en haut,
n'est pas pyramidal. Voilà, avec un sommet qui rayonne sur tout le reste.
Une question d'Antoine Mercier.
Oui, mais il y a des autres peut-être, mais est-ce que ces autres ont aussi une vision universaliste? Parce que c'est ça la différence. D'un côté, effectivement, l'Europe, avec sa vision universaliste, a voulu l'imposer aux autres. Ces autres eux-mêmes, comment perçoivent-ils le monde? Est-ce qu'ils le perçoivent pluriel? Ou au contraire, est-ce qu'ils ont aussi cette vision universelle? Peut-être qu'on peut poser la question pour l'Inde d'abord, parce que c'est un grand pays qui pourrait, qui devrait aussi peut-être avoir cette vision globale.
Sanjay Subramaniam.
Oui, mais vous savez que là encore, on revient à la question de la symétrie. C'est-à-dire, je ne pense pas que c'est très utile d'imaginer que on peut multiplier et imaginer qu'au lieu d'avoir une Europe, il y a cinq. C'est pas comme si les Chinois ont une vision du monde ou les Indiens ont une vision du monde qui fait exactement l'équivalent de la vision européenne. Si c'était le cas, d'ailleurs, on aurait aussi peut-être eu les mêmes projets politiques. D'ailleurs, on n'a pas eu. Donc, par exemple, il n'y a jamais eu l'Empire moghol qui était un grand empire en Inde au XVIe, XVIIe siècle. Mais c'est remarquable de voir que, par exemple, les Moghols n'ont même pas songé à la conquête de Sri Lanka, hein, qui est quand même un pays voisin. Hein, et pour ne pas parler, par exemple, de monter des projets de conquête de l'Afrique orientale, ou Dieu sait quoi. Hein, donc, vous voyez que je pense que c'est important de souligner l'existence de ces points de vue multiples, mais en même temps, j'insiste qu'ils ne sont pas du tout équivalents. En fait, chacun de ces points de vue est construit, je dirais, épistémologiquement et même ontologiquement d'une façon très différente.
Mais quand vous dites qu'ils ne sont pas équivalents, c'est donc une structure de raisonnement construite différemment, mais ça veut dire aussi des valeurs différentes pour vous ?
Des valeurs différentes peut-être, mais moi j'insiste, comme je suis historien plutôt que philosophe, je ne pense pas tellement en termes de ces valeurs culturelles qui sont opposées les unes aux autres. Je pense plutôt en termes du fait qu'il y a des structures sociales différentes. Ce qui est l'intellectuel dans le monde européen du XVIIIe siècle, ce n'est pas du tout la place qu'il y a l'intellectuel, par exemple, dans le monde indien du XVIIIe siècle, etc. Donc, il faut aussi prendre toutes ces différences en compte. Donc, encore une fois, pour insister, je pense qu'il ne suffit pas d'imaginer que provincialiser l'Europe, comme un de mes collègues indiens a dit, que ça veut dire tout simplement multiplier l'Europe en disant qu'il n'y a pas une Europe, mais plutôt cinq ou six, et chacun vaut la même chose. Non, en fait, chacun est différent.
Mais vous avez travaillé à partir de tous les documents, témoignages qui ont pu être rapportés au cours de ces voyages. Vous avez aussi questionné la finalité de toutes ces notes, de toutes ces informations qui ont été recueillies durant ces expéditions par des Européens en Inde. À quelle fin les voyageurs européens collectaient-ils toutes ces informations ? Il y avait quand même une finalité politique, ou en tout cas une relation de pouvoir dans la manière dont ces informations ont été utilisées.
Parfois, non, parce que vous savez que là encore, j'insiste sur la variété et la diversité de ces gens. Hein, parce que, par exemple, si vous êtes missionnaire catholique en Inde au XVIe siècle et votre but est de faire la conversion des Indiens, ce qu'on appelle les gentils à l'époque, c'est-à-dire pas des musulmans, mais ce qu'on appellerait aujourd'hui les hindous, on ne l'appelait pas comme ça à l'époque. Alors là, vous avez un certain point de départ si vous êtes missionnaire. Si vous êtes médecin comme François Bernier, votre point de vue et votre but est autre. Si vous êtes, j'ai aussi pris l'exemple de quelqu'un, Charles de Bussy, seigneur de guerre, qui est parti à la conquête de l'Inde au XVIIIe siècle. Et lui, en fait, il voit ça d'un point de vue qui est de percer les faiblesses du système politique indien avec l'intention de la conquête. Donc là, vous voyez, ce sont trois cas très différents. L'un qui est parti avec l'idée de défaire le système politique indien, l'autre qui est parti avec l'idée de convertir les Indiens, et le troisième qui est là pour analyser les systèmes, en fait, dans le cas de Bernier, aussi pour critiquer le système politique français.
Mais ça, c'est au niveau des intentions, il y a des différences. Maintenant, au niveau de la perception du pays, peut-être plus généralement, telle qu'elle a pu ensuite être reprise par la population en général, il y a tout de même une opinion globale qui s'est constituée progressivement avec ces témoignages sur ce qu'était l'Inde, notamment en France, par exemple. Qu'est-ce que vous pouvez en dire à partir du XVIIIe siècle et comment ça a évolué ?
Vous savez que ça, c'est quelque chose qui a été démontré par d'autres. C'est-à-dire, même en France au XIXe siècle, il y a des points de vue sur l'Inde qui sont assez divers. Par exemple, il y a au moins deux courants assez différents qu'on connaît. C'est-à-dire, d'un côté, il y a cette espèce de ce que Raymond Schwab autrefois a appelé la Renaissance orientale, c'est-à-dire une certaine admiration qui était vouée envers les traditions intellectuelles indiennes, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui est connu, surtout repris par les romantiques et ainsi de suite. Et puis, il y a aussi un autre point de vue qui est beaucoup plus un point de vue de mépris. Donc, en fait, ça coexiste à la fois le mépris parce que les Indiens ne savent pas faire ceci, cela, ils ne sont pas des bons guerriers, et puis il y a aussi l'admiration. Donc, en fait, ces deux points de vue se retrouvent mélangés, je dirais, même au XIXe siècle, et c'est encore plus compliqué quand on remonte au XVIIe ou XVIIIe. Donc, je ne pense pas que c'est très utile de voir ça comme s'il y avait un seul point de vue européens portant sur l'Inde ou sur la Chine. Et d'ailleurs, c'est justement parce qu'il y avait ces éléments en jeu qu'il faut essayer d'analyser d'une façon plus fine.
Notre dialogue est peut-être là la différence, c'est-à-dire que nous, on cherche une espèce d'unification, d'unité, et vous nous ramenez toujours à la diversité des choses.
Exactement.
Mais ça représente peut-être le dialogue entre l'Europe et l'Inde.
Pas que, parce que vous parlez aussi quand même, Sanjaya Subramaniam, d'une identité commune ou d'un sentiment d'identité commune qui a fini par naître, d'une civilité coloniale qui a émergé. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, ça c'est quelque chose d'intéressant parce que je trouve que ça remonte à un travail que j'ai fait sur les Italiens en Inde. Parce que vous savez que il y avait les projets coloniaux, c'est-à-dire il y a les Portugais et puis les Néerlandais, les Anglais, et les Français, et eux ils ont été toujours là suffisamment en force pour vouloir faire la conquête. Mais il y avait aussi ces petits groupes-là qui n'avaient donc aucun projet de conquête, et ils se retrouvaient aussi un peu perdus dans ce contexte-là. Et donc, je pense que c'est plutôt eux, c'est-à-dire les Italiens, les Suisses, les Danois, des petits pays comme ça, qui ont inventé une espèce d'idée d'identité collective européenne dans un pays qui était loin, et en fait, la seule façon qu'ils pouvaient se retrouver, c'était en faisant comme si les Européens, dans un ensemble, constituaient quelque chose comme une identité culturelle.
Alors on voit à travers votre livre, Sanjaya Subramaniam, comment des représentations se sont forgées dans le temps et comment elles se sont aussi perpétuées à travers les siècles. Si on s'attache à un ou deux exemples, vous montrez et vous racontez qu'au XVIe siècle déjà, l'islam était perçu dans les yeux de ces voyageurs comme une religion plus menaçante finalement que les autres, hein, que vous regroupez un peu sous l'étiquette des gentils, les hindous, les bouddhistes, les
Jains.
Pourquoi et comment expliquer que déjà l'islam portait cette réputation, ce stigmate dans le regard de ces voyageurs occidentaux ?
Ah, vous savez que c'est parce que, en fin de compte, au départ, ce sont des Ibériques. Et les Ibériques avaient justement eu cette expérience avec l'islam, c'est-à-dire ils ont fait ce qu'on appelle en portugais et en espagnol la Reconquista. Et donc ils avaient eu cette espèce de lutte contre les musulmans pluriséculaires et ils ont gardé cette idée. Et donc quand ils sont arrivés en Inde, d'ailleurs en Amérique, ils ont déjà extrêmement peur qu'ils vont se retrouver face à ces musulmans qui vont vouloir continuer la lutte d'autrefois qui a eu lieu dans la péninsule ibérique. Donc, c'est parce qu'ils sont très, très marqués par ce rapport compliqué qu'ils ont en Espagne et au Portugal. Et vous savez que ça, c'est la différence avec les Français ou les Néerlandais ou les Anglais qui n'avaient pas ce genre de rapport avec la culture islamique. Donc, en fait, progressivement, quand on rentre au XVIIe ou au XVIIIe siècle, ce rapport ou ce sentiment d'être menacé par les musulmans, ça devient moins fort, à mon avis, au moins dans le cas de l'Inde.
Ce jeu de stéréotypes, de représentations, Christiane Taubira, vous le retrouvez dans tout ce qu'on vous a vous enseigné, appris sur la Guyane. Je rappelle que vous êtes originaire de Cayenne. Qui a écrit l'histoire de la Guyane ?
Nous avons eu effectivement ce regard extérieur en surplomb qui a décidé justement du récit de l'histoire. Moi, je pense que c'est quand même une répétition, mais une répétition avec de très grandes variations. En fait, c'est même pas une répétition, ce sont des partitions. Je crois qu'il y a des différences entre les pays européens et notamment pendant la période de conquête coloniale, la première et la deuxième, il y a eu des différences. Cette doctrine coloniale espagnole n'était pas les mêmes que française, qui n'était pas les mêmes que portugaise, qui n'était pas les mêmes qu'anglaise, donc les doctrines coloniales avec des différences fondamentales qui ont déterminé la suite, c'est-à-dire la deuxième période coloniale d'une part, et ensuite les périodes de libération ou de négociation des indépendances. Moi, je pense qu'il y a d'une part le regard que les différents pays européens ou citoyens européens, avec leurs différences de classe, jettent sur un immense territoire comme l'Inde, qui est pratiquement un territoire continent, le regard qu'il jette. Et puis, il y a le regard que l'Inde elle-même peut avoir dans sa disparité, elle aussi, parce qu'il y a des castes, parce qu'il y a des classes sociales, parce que de toute façon, la société, elle est stratifiée. Donc, la question, c'est évidemment, quelle est la disparité des regards en provenance de l'Europe et parfois en provenance d'un seul pays, comme l'expliquait M. Subramaniam. Et puis, et la question aussi, quel est le regard des Indiens même sur le monde, parce que ça c'est important. Pour en revenir à la question universelle, l'Europe a eu un message universaliste? Non, Non, l'Europe a eu un message idéologique qui, dans le rapport de force, a été perçu comme la narration, le récit, la référence. La preuve, la meilleure illustration de cela, c'est qu'à l'intérieur de l'Europe, il y a eu remise en cause de ces narrations, qu'à l'intérieur de l'Europe, il y a eu des conflits, y compris des conflits idéologiques. Donc, lorsqu'on parle de la narration du monde par l'Europe, alors, je ne suis pas en train de dire que tout est à jeter, etc. Je suis en train de dire que, voilà, il est bienfaisant que nous ayons plusieurs centres du monde. Parce que pendant longtemps, pendant deux siècles, nous avons eu un centre du monde parce qu'il y a une narration qui s'est imposée au reste du monde et que le monde en a été appauvri. Et la meilleure illustration, c'est la circulation des grandes œuvres européennes. Elles ont circulé à travers tout le monde. Sauf que les grandes œuvres d'autres parties du monde n'ont pas circulé de la même façon. Pour l'Inde, tout simplement, le Mahabharata, par exemple, ça n'est pas c'est une œuvre qui commence à circuler. D'ailleurs, l'Europe continue à s'arracher la tête pour savoir comment traduire, comment expliquer, comment commenter. Mais c'est pourtant une œuvre fondamentale qui existe depuis des millénaires. Et c'est la même chose en Chine. Donc là, nous avons, nous, êtres humains et sociétés humaines, nous avons intérêt à ce que ces grandes pensées qui, parfois, pendant des siècles, se sont construites et ont fini par être recueillies dans un même livre, nous avons intérêt à ce que ces grandes et belles pensées circulent. Nous avons intérêt.
Mais ça, c'est pas une pensée européenne, par exemple. Ce que vous dites, c'est là, finalement, d'avoir cette vision.
Non, parce que justement, non, mais moi, je suis pas en guerre contre l'Europe. Donc, je suis pas en train de dire, il y a l'Europe qui est devenue le mal après avoir été le bien absolu. Et qu'en face de ça, non, je suis en train de dire que notre intérêt à tous, l'humanité, et particulièrement à cette époque où nous sommes justement connectés, c'est-à-dire que nous sommes en information les uns par rapport aux autres, que notre intérêt d'êtres humains et d'êtres sociaux et d'êtres culturels, notre intérêt, c'est effectivement d'avoir à notre portée, d'avoir accès à toutes ces pensées et à tous ces matériaux de réflexion.
On a quand même aussi envie d'entendre votre réponse, Sanjaya Subramaniam, à la question soulevée par Christiane Taubira. Du coup, quand est-ce que l'Europe a vraiment commencé à peser dans le regard aussi des Indiens? Et aujourd'hui, comment l'Europe est perçue par l'Inde? Est-ce que c'est maintenant un continent existant presque?
Oui, non. En fait, je pense qu'il y a plusieurs questions qui ont été soulevées. D'ailleurs, il y a aussi l'autre problème que j'ai pas tellement abordé dans ce livre, mais qui reste intéressant et important, c'est-à-dire comment, en fait, la pensée européenne ou les textes européens de l'époque moderne que je traite ont déjà été influencés par les matériaux venant en dehors de l'Europe. En fait, ça, c'est aussi un des mythes qui a été créé à un moment donné, c'est-à-dire de l'autosuffisance européenne. Comme si il n'y a jamais eu, vous savez que par exemple, il y a 5-6 ans, il y avait cette espèce de polémique totalement inutile pour dire que jamais il y a eu de l'influence arabe sur les intellectuels européens. Hein? Ce genre de choses que ressort de temps à autre comme polémique très avec une visée politique très claire. Mais l'autre aspect, c'est quand même pour la vision de l'Europe qui existe aujourd'hui en Inde. Il faut dire que c'est un peu, je dirais pas faussé, mais le problème, c'est que maintenant et toujours, l'Europe, en dehors de l'Angleterre, n'est pas si connue que ça en Inde. Et donc, en Inde, on a un peu tendance de faire l'équivalence entre l'Angleterre et l'Europe. Et du coup, donc, vous voyez que l'Allemagne ou la France...
Du coup, ça s'appelle une grosse distorsion.
Oui, c'est une distorsion, mais c'est une distorsion qui se fait par sélection. Et c'est pas parce que on invente des choses sur les Anglais, mais les Anglais sont devenus tellement importants.
C'est à cause du colonisateur, c'est sûr. Chacun a la vision de l'Europe de son colonisateur propre.
Voilà. Je dirais que ça serait la même chose si on était dans un contexte d'une colonie française. Tout est centré sur la France et les Anglais peut-être.
Je peux vous en parler.
Oui, voilà.
Invité de cette deuxième et dernière partie de la grande table en ce mardi, l'historien indien Sanjaya Subramaniam à l'occasion de l'apparition de l'Inde sous les yeux de l'Europe chez Alma Éditeur, accompagné de Christiane Taubira, qui était aussi l'invitée de la première partie de l'émission pour nous parler de ses goûts littéraires, de l'importance des mots, des livres. C'est dans Baroque, ça arbande son essai, qui paraît chez Philippe Ray. Il est 13h20.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesbert.
De n'importe quel objet, de n'importe quel collectif, on peut faire une histoire respirante. Histoire mondiale, ça veut rien dire d'autre qu'une histoire qui respire mieux. Ouverte, diverse et bienveillante. Voilà, c'est ça cette idée. Pour moi, l'histoire comme discipline, elle ne vaut rien si elle ne s'adresse pas à la vie des gens. C'est ça que j'appelle un engagement. C'est pas du tout une préférence militante. Un engagement, c'est une manière de dire, voilà, il y a quelqu'un qui vous parle. C'est quelqu'un, c'est pas l'histoire, c'est pas la France, c'est un récit. Et au fond, s'il y avait une manière d'exprimer ce qui nous rassemble, écrivain, philosophe, penseur, artiste, c'est l'art du récit. Et c'est cette manière aussi, encore une fois, politique, de dire, mais au fond, si on veut ne pas se laisser tellement gouverner, comme disait Michel Foucault, il faut reprendre pied dans le récit de nos vies.
L'histoire respirante de l'historien Patrick Boucheron. On a voulu faire avec l'Histoire mondiale de la France un recueil de nouvelles historiques dans lesquelles on peut circuler, disait-il récemment sur France Culture. Il a en effet dirigé une Histoire mondiale de la France publiée au Seuil, car la France n'existe pas séparément du monde. On pourrait dire ça pour tous les territoires et on pose déjà avec ces mots les bases, les fondements de cette histoire connectée dont vous êtes l'un des pionniers, si ce n'est le pionnier Sanjaya Subramaniam, l'histoire connectée qui n'étudie plus l'histoire en se limitant à une aire géographique définie par un événement, mais qui s'ouvre à la comparaison, à la globalité, à l'histoire des liens et des interconnexions entre les espaces géographiques. Et c'est à cet exercice que vous vous prêtez une fois encore dans l'Inde sous les yeux de l'Europe, puisque l'idée centrale de cette histoire, c'est de créer des connexions, de croiser les récits, des lettres, des comptes rendus d'Écossais, de Portugais, de Français, de Suisses, autour de la question indienne. Pensée globale, agir local, Sanjaya Subramaniam, ce mantra, cette formule des altermondialistes née dans les années 70, est-ce qu'elle est dépassée pour vous aujourd'hui ?
Dépassée, non, mais ça n'a jamais été mon idéologie. C'est-à-dire, je ne me trouve pas ni en train de penser tout le temps global, ni en train d'agir toujours localement. C'est une option parmi des autres.
À quelle échelle vous réfléchissez alors ?
Ça dépend de la question.
Mais vous dites aussi que l'histoire, c'est quand même un récit assez égoïste quand elle reste centrée sur le modèle de l'État-nation. Il faut élargir pour pouvoir penser plus juste.
Oui, ça reste un récit égoïste, même si on dit que c'est l'histoire mondiale de la France. C'est quand même une histoire très franco-française.
Mais vous dites histoire connectée ou préférée ? Enfin, on vous a dit que c'est connecté, c'est pas très joli, donc vous avez dit histoire globale.
Oui.
Est-ce qu'on voit encore quelque chose quand on globalise toute chose ? Est-ce qu'il ne faut pas justement serrer les questions et est-ce qu'il n'y a pas une utilité à cette division ? Est-ce que ce n'est pas ça la science de distinguer ?
Si vous avez lu mon texte, en fait, je termine mon texte justement en disant que ce n'est pas le projet de l'histoire globale de tout monopoliser. En fait, ça ne veut pas dire, j'ai terminé justement en disant que sous le même toit, même dans le même dans la même institution, il faut avoir différentes sortes d'histoires. Je n'ai jamais dit qu'il faut pas faire de l'histoire nationale ou de l'histoire régionale. Si quelqu'un a envie d'écrire un beau livre sur un sujet intéressant portant sur le Pays d'Oc, pourquoi pas ?
Alors qu'est-ce que ça apporte l'histoire globale et comment vous la définiriez très simplement ?
Alors, l'histoire globale, c'est une histoire écrite à grande échelle et ça prête à répondre à certains types de questions. Hein? Donc, par exemple, je pense que si on veut penser à la question, par exemple, de l'esclavage en Atlantique, c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup d'intérêt à faire à petite échelle, à très petite échelle, hein? Parce que on comprend pas grand-chose en faisant ça à cette échelle-là. Par contre, si vous voulez étudier quelque chose qui est extrêmement précise et extrêmement spécifique, qui se limite à la ville de Recife au Brésil, il y a sûrement des sujets qui se prêtent à être traités à ce genre d'échelle. Donc jamais j'ai voulu dire que l'histoire globale son destin c'est de faire la conquête du monde. Ça serait absurde.
Et c'est, puisque vous parlez de l'esclavage, une question que je souhaitais vous poser, un très beau documentaire, une série documentaire qui vient d'être diffusée sur Arte, qui est toujours visible en replay, qui s'appelle « Les routes de l'esclavage », qui a été produit et co-réalisé par Fanny Glissant. On la recevait autour de cette grande table pour évoquer cette question. Cherche à montrer un autre regard sur cette question de l'esclavage à travers une longue histoire, et ça commence dès le 5e siècle, cette série. Elle retrace aussi et montre les rouages, la mécanique économique qui a conduit à la mondialisation de l'esclavage aujourd'hui. Christiane Taubira, la loi du 21 mai 2001 qui vise à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, on vous la doit. Elle s'appelle aussi aujourd'hui la loi Taubira. 170 ans après l'abolition de l'esclavage, et on a dans deux jours la journée mondiale des mémoires de la traite et de l'esclavage et de leur abolition qui aura lieu. Est-ce que vous pensez que cette histoire, on n'a pas fini de l'écrire? Non seulement cette question, d'une certaine manière, parce qu'elle a encore des résonances aujourd'hui à travers la question du racisme, continue à être d'actualité, mais surtout cet héritage, on ne l'a pas totalement digéré, il mériterait encore d'être repensé autrement, avec un autre regard.
On n'a pas fini de l'interroger, surtout parce qu'elle a des tas de choses à nous enseigner encore. C'est effectivement une histoire mondiale. C'est la première mondialisation, c'est la première mise en contact de trois continents de façon durable, aussi bien dans les échanges commerciaux que dans la proximité des cultures, l'articulation des cultures, la proximité des langues, l'émergence de langues nouvelles, notamment les créoles, la découverte d'environnements nouveaux, le développement de rapports différents avec ces environnements, l'émergence aussi de techniques, de savoirs scientifiques. Donc voilà, c'est une mondialisation accomplie, complète, et qui explique aujourd'hui la composition populaire, culturelle, collective, d'identité collective, aussi bien en Amérique du Sud que dans la Caraïbe, qu'en Amérique du Nord même, et les bouleversements, y compris dans la composition de la société des peuples européens. Donc cette histoire n'a pas fini de nous instruire et de nous éclairer. Donc il faut continuer à l'explorer, il faut continuer à l'interroger, et il faut arrêter, ceux qui continuent à nier peuvent continuer à nier, ils s'enferment simplement. Je voudrais justement réhabiliter l'histoire mondiale de la France, parce que c'est au contraire une approche qui sort de la vision nombriliste qui a prédominé pendant très longtemps, y compris parmi des historiens éminents, qui nous ont appris des tas d'autres choses, mais qui n'ont pas enseigné à la fois la présence de la France dans le monde, ce que la France a laissé dans le monde du fait de sa longue présence, ce qu'elle a ramené du monde du fait justement de sa fréquentation durable du reste du monde. Donc nous avions de brillants historiens qui nous enseignaient l'histoire de la France de cette façon-là. Et il y a une césure avec cette approche à travers cet ouvrage dirigé par Patrick Boucheron et plus d'une centaine d'historiens qui effectivement interrogent l'histoire mondiale de la France et rétablissent la France, y compris d'ailleurs dans sa grandeur, parce que le fait de la rétablir au sein du monde et non pas simplement sur son territoire hexagonal, ça rétablit l'influence qu'elle a eue, le rayonnement qu'elle a eu, mais aussi la façon dont, avec vitalité, elle a reçu.
Réhabilitation, pareil pour vous, le mot de la fin, Sanjay
Subramaniam. Oui, mais tout de même, je préférerais une histoire où il y aurait plus de participation des non-français et un livre qui serait donc lu aussi en dehors de la France, tandis que ce livre est resté et toujours à la consommation des Français, parce que, par exemple, jamais personne aux États-Unis ou en Inde a entendu parler de ce livre. Et ça va continuer comme ça.
Ça, c'est juste une question d'édition ou c'est dans
le parti
pris d'ouvrage?
Non, c'est parce que la façon dont c'est construit, c'est comme ça. Il y a maintenant une autre version qui s'appelle Storia Globale e Storia Mondiale dell'Italia. Et donc, si on continue à faire ça, ça va faire un peu comme une version des lieux de mémoire de Pierre Nora.
Justement, c'est une rupture fondamentale avec les lieux de mémoire de Pierre Nora, qui était une histoire très nombreuse. Liste, justement, et donc très appauvri. En tout cas, moi, je suis preneur de matériaux.
Mais vous êtes deux
sur l'histoire italienne.
Vous êtes deux pour commencer à écrire.
L'histoire mondiale de l'Italie.
Vous êtes deux
pour
commencer
à
écrire cette nouvelle histoire mondiale de la France et qui sera diffusée partout dans le monde. On compte sur vous. Merci à Sanjay Subramaniam. L'Inde sous les yeux de l'Europe. En attendant, c'est votre dernier essai historique qui vient de paraître chez Alma Éditeur. Merci mille fois à vous, Christiane Taubira, d'être restée au débeauté pour participer à cette deuxième partie de l'émission Baroque Sarabande. Votre essai littéraire vient de paraître chez Philippe Ray. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table que je n'ai pas le temps de nommer. Et merci à Perret Legras avec Jean-Frédérix aux manettes aujourd'hui. Très bel après-midi à tous sur France Culture.